Mercredi 13 novembre 2019, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal du studio Kalangu. Nafissa Adam Sirfo à la présentation. Les titres de ce journal, au forum sur la paix qui se tient à Paris, les présidents nigériens et tchadiens ont déploré le manque de solidarité de la communauté internationale face aux défis sécuritaires dans le Sahel. À suivre l'analyse de l'enseignant-chercheur de l'université de Zender, Dr Diko. Des armes récupérées dans le département d'Iférouane remises aux autorités régionales d'Agadez. Le gouverneur Sadou Soleké, content du geste de ses populations, s'exprime dans ce journal. Empathie Magazine, la présidente de la Fondation Hirondelle qui séjourne au Niger parle du rôle des médias et de certaines règles du journalisme. À l'occasion du forum de Paris sur la paix qui prend fin aujourd'hui, les présidents tchadiens Idriss Déby et nigériens Issoufou Mahamadou ont déploré un manque de solidarité de la communauté internationale face aux défis sécuritaires auxquels le Sahel est confronté. On a demandé 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées. Sur les 400 millions, rien jusqu'à nos jours. Sur les 12 milliards, rien, a déclaré le président du Tchad selon une dépêche de l'AFP. Son homologue du Niger a réitéré l'appel des pays de la région pour que la force du G5 Sahel soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui ouvrirait la voie à des financements de l'ONU et pour que celle de l'ONU au Mali, MINUSMA, ait un mandat plus offensif. Pour l'instant, le mandat de la MINUSMA se limite au maintien de la paix. Or, au Nord Mali, il ne s'agit pas de maintenir la paix, il s'agit de faire la guerre contre le terrorisme à l'ancien. C'est le président Issoufou Mahamadou. Ces positions des chefs africains ont fait réagir Dr Diko Abdrahman, enseignant à l'université de Zender. Interrogé au téléphone par Adama Dawakei, l'universitaire indique que les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel n'ont pas compris les enjeux liés à la sécurité de leur espace. On l'écoute.
Je pense que tous les cinq présidents de cinq États membres du G5 Sahel ne doivent pas être surpris que la position des États occidentaux, ou du moins la communauté internationale vis-à-vis du G5 Sahel.
Pourquoi?
Que nous le savons très bien, à sa création déjà, le G5 Sahel était confronté à un problème de leadership. C'est la France qui a d'ailleurs insisté pour que le G5 Sahel soit mis en place, mais la communauté internationale n'avait pas véritablement appuyé cette décision. D'ailleurs, le refus des Nations Unies à inscrire le G5 Sahel sur le chapitre 7 est une confirmation réelle de cette position plus ou moins, j'allais dire, d'opposition. Aujourd'hui, j'ai suivi avec intérêt l'intervention particulièrement du président Mahamadou Issoufou qui disait clairement que la communauté internationale n'a pas véritablement appuyé les actions de la sécurisation de l'espace aérien. Jusqu'ici, je pense très bien que les chefs d'État n'ont pas véritablement compris les enjeux qui sont liés à la sécurité. Donc, lorsque l'État déjà affiche ses insuffisances par rapport à sa propre sécurité, l'État se déclare lui-même défaillant.
En bref, le chef de village de Boni dans le département d'Ayarou a été enlevé lundi 11 novembre par des inconnus armés. Selon notre correspondant, le corps du notable a été retrouvé hier après-midi. La même source précise que le domicile du défunt a été auparavant incendié par ses bourreaux. Je vous le disais dans les titres, le préfet d'Iférouane a remis aux autorités régionales d'Agadez des armes de guerre et des munitions récupérées des mains des bandits armés qui opèrent dans la zone. C'était le samedi dernier à Agadez. Le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soleké, a félicité les populations et les autorités d'Iférouane pour cet effort qui consolide la paix. Il est au micro de Moussa Mamane.
Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter les populations de Iférouane qui ont contribué aux côtés de leurs autorités à la récupération de ces armes et à leur remise volontaire. Elles ont contribué au rétablissement de la quiétude sociale dans le département tout entier. C'est de tels partenariats que nous recherchons avec les populations parce que nous sommes également conscients qu'on ne pourra pas résoudre ce problème-là sans les populations, notamment leurs leaders. Les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les chefs religieux, toutes ces personnalités sont invitées à prendre part au combat. Il s'agit d'un combat effectivement parce que récupérer ces armes, c'est rétablir l'ordre. Récupérer ces armes, c'est retirer des potentiels de violence.
Des éléments de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale du Niger sont en formation cette semaine à Niamey. Il s'agit d'amener ces unités à travailler ensemble dans la gestion des détenus et des sites de crimes au niveau des frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a déclaré la formatrice américaine Wes Miller. Elle est au micro de Moussa Hassan.
We are out here training the gender arm.
Nous sommes ici pour former la gendarmerie, la garde nationale et la police nationale ensemble pour amener une relation entre les trois unités et au-delà pour s'étendre sur le terrain. Nous les apprenons des tactiques différentes, y compris dans le domaine médical et des tactiques de défense personnelle. Comment s'occuper d'un détenu et l'exploitation des sites de crime. Surtout ceux qui sont sur les trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso. Parce que c'est là où les autorités nigériennes pensent avoir plus de difficultés en ce qui concerne les crimes. Pour qu'une fois qu'ils seront sur le champ de bataille, ils seront en mesure d'utiliser ça et apprendre à leurs collègues à travers l'ambassade des États-Unis, le département de justice des États-Unis, des juges et avocats nigériens. Nous les enseignons sur les lois de guerre, surtout quand il s'agit de détenus.
La scolarisation de la jeune fille est en baisse dans de nombreuses communes de Dosso. C'est pour trouver des solutions à ce problème que la direction régionale de l'éducation primaire a initié hier à Dosso un forum régional axé sur l'amélioration du taux de la scolarité des jeunes filles pour la rentrée 2019-2020. Adamu Mahamadou, un participant venu de Matankari, exprime son inquiétude face à ce faible accès des jeunes filles à l'école. Il est au micro de Aoussi Abdrahman.
C'est un forum qui nous a beaucoup édifiés parce que la direction régionale de Dosso nous a présenté d'une manière sommaire la situation de la scolarisation de la jeune fille dans la région de Dosso qui malheureusement est en baisse parce que il y a beaucoup de communes qui se sont retrouvées dans des zones rouges. Ça veut dire que ça ne va pas, la fille n'est pas largement scolarisée dans cette région. Donc avec les différentes interventions des participants et la réponse apportée par le directeur régional de l'éducation au niveau de Dosso, certains engagements ont été pris par tous les acteurs, dont entre autres les FCCDS ont pris des engagements, l'administration scolaire, les chefs religieux ont pris des engagements, les maires et les préfets ont pris des engagements par rapport donc à la scolarisation de la jeune fille, tout en respectant bien sûr la parité fille-garçon et aussi le genre.
À Maradi, restitution mardi dernier d'une étude sur l'impact du changement climatique sur la forêt de Babor Rafi et de Gulbinkaba, deux sites riches en écosystèmes de la région. L'étude a montré que ces deux sites sont fortement impactés avec la disparition progressive des arbres. Détail avec Gallo Badagé, le secrétaire permanent du Code rural de Maradi. Il est au micro de Mohamed Maman.
Le changement climatique est réel, c'est la vie de tous les jours, on le constate. Dans l'objectif par rapport à cette étude, c'est pouvoir intégrer sur l'ensemble des stratégies nationales cette question du changement climatique. Quand vous prenez la question de Babor Rafi, c'est des zones agraires, c'est-à-dire les forêts, y compris les champs qui sont aux alentours de l'ensemble. Vous avez vu, aujourd'hui, quand vous comparez ces forêts des années 1985 à aujourd'hui, vous allez voir sur le plan cartographique, alors presque tout est parti. En matière de la biodiversité, en matière des arbres qui sont là-bas. Donc, vous voyez, avant, c'était dense. Aujourd'hui, il y a eu la pénétration des champs, il y a eu beaucoup de mortalité des arbres. En tout cas, le écosystème est fragilisé, comme on le constate aujourd'hui.
Deux mois après la relocalisation sur le site de Sagia des 312 ménages sinistrés de la crue du fleuve Niger, de nombreuses familles n'ont toujours pas de maison. Selon le secrétaire général de la commune 5 de Niamey, seuls les 85 ménages propriétaires de maisons recevront des parcelles en compensation du terrain perdu dans la zone inondable. Boubacar Djibo, secrétaire général de la commune 5 de Niamey, est interrogé par Diallo Maria Makenda.
Au moment où nous avons amené ces 312 ménages, on n'avait pas fait de sélection. Tous ceux qui étaient dans la nécessité, on les a amenés sur le site. Maintenant, on est en train de faire un travail. Ce travail consiste à faire un tri. Les gens qui ont réellement des maisons et les gens qui ne possèdent pas de maisons, des locataires. Ceux qui ne sont pas propriétaires des maisons, ce serait difficile à la ville de Niamey de leur donner des parcelles. Mais pour tous ceux qui ont leur maison et qui se trouvent dans la situation de la zone inondable, ils ne pourront pas retourner. La ville va mettre à leur disposition des parcelles qu'on est en train de chercher à viabiliser pour leur leur bien-être. Comme en 2012 on a fait, cette fois-ci aussi, on va leur donner des parcelles gratuitement, mais il faudrait qu'ils renoncent à leur terrain qui se trouve dans la zone inondable, qui devient maintenant la propriété de la ville de Niamey. Donc en réalité, c'est pas un don, c'est un échange. Et cette fois-ci, on va prendre des mesures plus rigoureuses, on va baliser. Pour le moment, nous avons 85 ménages propriétaires de parcelles. Parmi eux, il y a quelques ménages qui se trouvent dans la zone lotie, sont au nombre de 4.
Du sport dans ce journal, la 15e édition du championnat national de handball se déroule cette semaine à l'Académie des arts martiaux de Niamey avec 20 équipes masculines et féminines de toutes les régions du Niger sauf Agadez et Difa. La secrétaire générale de la Fédération de handball, Madame Issaka Issata, explique au micro de Rukayatou Abdrahman.
Ce championnat regroupe toutes les régions du pays, à l'exception d'Agadez et Difa. Agadez avait eu des difficultés de moyens et Difa, compte tenu de la situation qui prévaut là-bas, vraiment c'est difficile de réunir les jeunes et puis de monter une équipe. Nous avons un total de 20 équipes qui participent, 8 équipes féminines et puis 12 équipes masculines. À partir de l'ouverture jusqu'au samedi, nous avons un minimum de 10 matchs par jour. Donc à partir du vendredi, nous allons arriver à la phase des quarts de finale et demi-finale et le samedi, on va assister à la finale. Et présentement, on est en train d'organiser un stage en marge du championnat à l'intention des entraîneurs de jeunes. Parce que la fédération a un projet de développement du handball à la base. Il faut préparer la relève. On est en train de partir dans les établissements scolaires, qui est la pépinière, pour former des jeunes qui ont 12 à 13 ans.
À présent, la partie magazine de ce journal-là. Pour bien informer, le journaliste se doit de respecter les règles de la profession que sont l'impartialité et la neutralité. Cependant, face à certaines évidences, le journaliste est parfois mis à rude épreuve, par exemple pour la construction d'une démocratie ou face à la crise climatique. Comment le journaliste doit-il se positionner? Romain Jean est journaliste et président de la Fondation Hirondelle qui porte le projet Studio Kalangou en visite au Niger et reporte aux questions d'Olivier Assogbavi.
Dans un article publié récemment dans le magazine suisse Bilan à propos de la crise climatique, vous vous êtes demandé comment faire comprendre et accepter une révolution aussi rapide sans l'apport des médias. Là, vous étiez en train de parler des changements climatiques. Alors, je vous repose la question.
Alors, je dirais que les médias sont absolument indispensables pour la construction d'une démocratie, pour la construction d'une opinion, pour avoir des vrais citoyens qui sont informés. Là, on est en train de vivre une période assez grave, je pense, de l'histoire de l'humanité avec le réchauffement climatique. On le voit ici au Niger, oui. On le voit aussi chez nous. Donc, les gens doivent probablement changer leur manière de consommer, de se déplacer, de vivre. Et les médias sont en retard.
Alors, cette question, elle était posée à qui? Ou bien la question reste posée à qui?
Cette question a été posée pour les journalistes, pour tous les acteurs de la vie en société en général, qui doivent aussi accepter et qui doivent comprendre que les médias sont absolument indispensables. On parle de la crise climatique, mais on pourrait parler de crise sanitaire, s'il y en a une. On pourrait parler de crise démocratique. Un média, dans un pays, s'il fait correctement son travail. Ce que la Fondation Hirondelle essaye toujours de faire, c'est-à-dire objectif, qui vérifie les informations, qui fait attention à ce qu'il dit, qui ne fait pas de fake news.
En journalisme, les règles d'art sont impartialité et neutralité. Alors comment peut-on être impartial et neutre si parfois l'évidence nous oblige à prendre parti?
Un journaliste, il est objectif. Un journaliste est un observateur. Il voit, il est en face d'une situation X. Il l'observe, il l'enquête, il prend toutes les opinions et fatalement, il rapporte. Donc, il n'y a pas c'est un processus, c'est un procédé. Donc, s'il rapporte une situation grave, il le dit parce qu'il est convaincu que ce sont les faits, que c'est la réalité. C'est ça le travail du journalisme.
Donc, malgré les évidences, on reste impartial.
À cause des évidences, on reste impartial. Parce qu'on a enquêté, parce qu'on a vérifié, parce qu'on est sûr de ce qu'on dit, on peut tout dire, mais il faut être sûr de ce qu'on dit.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le forum d'aujourd'hui est une animation réalisée à Gao, au Mali, par Alassane Kouzi Mahamadou et Imran du studio Tamani. Le thème est la migration irrégulière vers l'Europe, causes, conséquences et solutions. Bonne écoute.